Bonjour, vous savez sans doute que vous pouvez consulter notre collection de magazines Idées depuis le début de l'émission, il y a une dizaine d'années, sur notre site www.rfi.fr. Ce peut être l'occasion pour vous qui nous écoutez en ce moment même de découvrir ou de redécouvrir certaines des émissions que nous vous offrons chaque dimanche à cette heure-ci. Justement, nous allons vous proposer une nouvelle diffusion de l'une d'entre elles. Dans ce magazine, nous allons en effet parler de notre appartenance à la nature et en particulier du concept d'éco-biographie que développe dans un essai le philosophe Jean-Philippe Pierron. Il s'agit pour lui, je le cite, de valoriser une approche d'écologie à la première personne, invitant à une réforme du soi écologique par une compréhension renouvelée de nos liens avec la Terre. Cette compréhension passe par exemple par notre connaissance des arbres. Grâce à Laurent Tillon, cette fois, qui est biologiste et ingénieur forestier à l'Office national des forêts, auteur d'un livre intitulé « Être un chêne sous l'écorce de Quercus », nous allons devenir un chêne en suivant la naissance et la croissance d'un d'entre eux, celui que l'auteur a toujours connu. « On devrait toujours avoir un arbre où se ressourcer », écrit-il. Vous l'avez compris, la nature va être au cœur de ce magazine que vous pouvez aussi retrouver sur votre moteur de recherche préféré en tapant par exemple « Idées RFI ». Bonjour Jean-Philippe Pierron.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, professeur à l'université de Bourgogne à Dijon. Vous venez donc d'écrire « Je est un nous », enquête philosophique sur nos interdépendances avec le vivant, publié dans la collection « Pour une nouvelle alliance » chez Actes Sud. On peut dire que vous préconisez une autre façon de voir la nature.
Oui, c'est-à-dire de peut-être rompre justement avec cette idée du voir, parce que le voir, c'est toujours quelque chose qui met à distance, pour privilégier la porte d'entrée du sentir. C'est-à-dire que la nature n'est pas pour nous simplement qu'un spectacle, mais une réalité que nous sentons, ressentons et éprouvons de façon sensible, de manière polysensorielle. Donc, pour qui a fait l'expérience modeste, hein, je ne suis pas moi un forestier, hein, mais de planter de temps en temps quelques arbres quand même, mais on peut penser aussi à d'autres êtres, mais pour les arbres en particulier, il y a quelque chose qui se dit là de ce que j'appelle des capillarités secrètes qui font qu'entre notre histoire de sujet humain et celle des grands végétaux, eh bien des liens peuvent se tisser, et pas que métaphoriques.
Alors, un forestier, nous en avons un dans le micro, vous le connaissez sans le connaître, puisqu'il vient de publier dans la même collection que la vôtre, « Monde sauvage pour une nouvelle alliance », toujours chez Actes Sud, un livre formidable qui s'intitule « Être un chêne sous l'écorce de Quercus ». Il s'appelle Laurent Tillon, il est biologiste, ingénieur forestier à l'Office national des forêts, je l'ai dit au tout début de l'émission, et j'ajoute que les chauves-souris sylvestres constituent sa deuxième passion avec les arbres. Je voudrais qu'on écoute d'abord ceci.
J'ai plaqué mon chêne comme un saligot, mon copain le chêne, mon alter ego. On était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement les flûtes. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de hautes futées. Mais toi, tu manques à l'appel, ma vieille branche de campagne, mon seul arbre de Noël, mon mât de cocagne. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Le surnom d'un phare.
Bonjour Laurent Tillon,
bonjour.
C'est votre hymne ?
Ah, c'est mon hymne, je me reconnais pas mal, à la différence de lui quand même, j'ai pas abandonné mon arbre.
Oui, au contraire, vous êtes toujours avec lui, on devrait tous avoir un arbre où se ressourcer. Je donnais cette phrase que j'ai extraite de votre livre dès le début de l'émission. Là aussi, c'est une sorte de philosophie de la vie que vous préconisez dans ce livre formidable où vous retracez la vie d'un chêne qui a aujourd'hui 240 ans.
C'est un chêne que j'ai rencontré dans l'adolescence et à partir d'un certain moment, s'est tissé une connivence entre lui et moi et c'est vrai qu'il m'a accompagné absolument tout le long de ma vie jusqu'à aujourd'hui et j'imaginerais pas d'ailleurs pouvoir vivre un quotidien sans avoir en tête la possibilité de me reconnecter à cet arbre et de le retrouver dans des moments d'intimité. D'ailleurs, je reconnaissais un petit peu la part d'intimité que je peux vivre avec mon arbre dans ce que disait Jean-Philippe Pierron juste avant. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel pour mon équilibre.
Essentiel dans quel sens, Laurent Tillon? C'est un repère quand, je sais pas, vous avez une difficulté, un doute, ou quand vous avez envie de prendre une bouffée de bonheur, c'est un repère?
En fait, on a souvent des étapes importantes dans sa vie, et au moment où j'ai rencontré cet arbre, j'étais en pleine adolescence. L'adolescence, cette période de la vie qui est toujours un petit peu compliquée, l'adolescent cherche toujours à savoir exactement qui il est, quelle place il doit prendre dans la vie, quelle décision il doit prendre, vers quel métier se destiner. Et j'étais vraiment perdu au moment de la rencontre avec cet arbre. Et puis, par un jeu de hasard, je me suis retrouvé dans ce sanctuaire forestier dans lequel j'ai très vite ressenti un gros bien-être. Et dans cette période de doute, j'ai eu besoin d'y revenir pour prendre le temps, à un moment, de me poser et de faire cette introspection qui était nécessaire pour que j'arrive à savoir vers quoi justement me destiner. Et puis, progressivement, en fait, la connivence a été telle que je me suis toujours senti beaucoup plus fort, beaucoup plus riche en étant dans ce secteur de forêt et particulièrement en me posant contre cet arbre. Et puis, de fil en aiguille, j'ai pris pour habitude de revenir auprès de lui à chaque grand moment de ma vie, pour chaque grande décision, comme pour essayer d'aller chercher à son contact la certitude que je devais aller vers tel chemin.
Mais est-ce que Quercus, c'est le nom que vous lui avez donné, que votre famille lui a donné, vous parle ?
D'une certaine manière, il me parle parce que, en réalité, quand je me trouve au pied de lui, alors j'aurais du mal à expliquer exactement ce qui se passe. C'est pas tout à fait de la télépathie, mais il y a des petits moments, il y a des rencontres qui s'opèrent dans cette forêt quand je suis au pied de ce chêne. Je me souviens d'une fois en particulier où j'arrivais au pied de mon chêne, de Quercus. Je me posais à chaque fois un petit peu. Voilà, je colle mon dos contre son écorce. Il y a comme un petit fauteuil d'ailleurs qui m'attend.
En plus.
Ah oui. Non mais il y a un empattement, c'est-à-dire le départ des racines à un endroit de cet arbre qui est propice pour une installation parfaite comme dans un fauteuil.
Il vous attendait vraiment.
Ah, il m'attendait vraiment. Je pense que d'ailleurs, je sais pas si c'est lui qui m'attendait ou si c'est moi qui l'ai choisi. La question subsiste toujours chez moi. Mais je m'installais là et je me souviens de quelques moments clés très importants, notamment la décision qui m'a amené à faire le métier que je fais. Je l'ai prise de manière définitive en me mettant justement contre Quercus. Et au moment où je me disais, je pense que c'est vers ce type de métier, biologiste, travaillant sur le monde de la forêt pour la préservation de la biodiversité, je me disais ça et au même instant, j'ai eu droit à des oiseaux qui sont passés en groupe au-dessus de moi, avec un écureuil qui est monté dans le houppier de Quercus et qui était en train de grignoter probablement l'écorce ou quelque chose. En tout cas, il était bien visible. Et un chevreuil qui est venu jusqu'à moi, qui s'est arrêté à 10 mètres devant moi, qui m'a regardé et qui est reparti tout tranquillement d'ailleurs, sans ressentir la peur de l'animal qui pourrait être traqué par un homme. Et là, enfin, je n'avais plus le choix. En fait, la certitude, elle était évidente. Fallait que je prenne cette direction.
La forêt vous avait parlé.
La forêt m'a parlé et la forêt m'a donné un message. Et ce type de situation, je le revis assez souvent au pied de Quercus.
Jean-Philippe Pierron, ce que vient de dire Laurent Tillon, c'est exactement le thème de votre livre. Nous sommes en plein dans ce que vous appelez l'éco-biographie.
Tout à fait, c'est ce que je me disais. Dans l'idée d'éco-biographie, alors de cette façon, je pense que je cherche à déployer à l'échelle de multiples expériences ce que Laurent vient expliciter ici à propos de la rencontre de cet arbre. C'est-à-dire que ce qui se dit à propos de l'arbre peut-être se dire d'un animal, d'une source, d'un paysage, d'un milieu spécifique. Mais ce que ça raconte, c'est que disons-nous quand nous disons « je ». Et donc la question de la, il y a deux choses qui me frappaient dans ce qui vient d'être partagé en fait par Laurent Tillon. La première, c'est une façon de redéfinir la compréhension que nous avons de ce que c'est qu'un sujet humain, et que penser le sujet humain dans ses attaches à l'égard du non-humain et donc des milieux n'est pas moins penser l'humain, mais le penser mieux, c'est-à-dire que nos appartenances avec les autres vivants bien, rentrent dans la définition de nous-mêmes. C'est ce que j'essaie de dire dans ce concept d'éco-biographie, cette idée que l'écriture de soi, la biographie, elle intègre dans le récit de soi de l'autre que soi, qui peut s'appeler le monde et les expériences singulières de monde qui ont été ici évoquées. Et puis la deuxième chose qui m'a frappé, donc c'est d'abord ce que j'entends, et puis donc de ce que partageait Laurent Tillon, il y a quelque chose d'important aussi qui est donné sur comment on prend une décision dans sa vie et la place que ces êtres non humains y jouent. Et ça peut paraître assez surprenant, et donc effectivement, si ce n'est pas métaphorique de dire que les êtres nous parlent, hein, parce que nous sommes héritiers d'une culture qui, depuis le XVIIe siècle, n'a pas cessé de dire, je pense à une formule de Kant dans les Critiques de la raison pure, qui disait que la nature était muette et qu'il fallait la forcer à parler. Et comment on la forçait à parler? C'était par l'expérience du laboratoire, de la tester, l'expérimenter, l'abrimer dans nos logiques d'expérience. Donc, ce qui me frappe, donc, dans cette, la deuxième chose qui me frappait, donc, je ne veux pas être trop long, c'est le fait que la possibilité de se laisser aller à une expérience de nature qu'on laisse retentir en soi, eh bien, n'est possible que s'il y a une forme de ce qu'on pourrait appeler d'écologie de l'attention. Donc, si nous faisons attention à notre attention, si je puis dire, et laisser faire ce travail-là, donc laisser monter en soi la possibilité d'être de la disponibilité, eh bien, ça ouvre la créativité à une multiplicité de perspectives et pourquoi pas laisser monter en soi son propre désir. Et donc, peut-être que de ce point de vue, on pourrait dire que le silence des arbres, eh bien, accompagne à la fois notre désir de sagesse et nos désespoirs.
Laurent...
C'est comme ça, en tout cas, j'entends la formule de Laurent.
Laurent Tillon, justement, qui vous écoute avec attention, veut vous répondre.
Oui, je dois dire que j'ai été agréablement troublé par la description que Jean-Philippe Pierron, dans son livre, pouvait faire de la relation qu'on pouvait avoir, effectivement, avec notre environnement, avec l'autre, avec l'être non humain avec lequel on peut tisser une relation particulière. Et je me suis vraiment reconnu. Alors, c'était d'ailleurs assez drôle parce que à la lecture de votre livre, Jean-Philippe, j'ai vraiment eu l'impression qu'on se connaissait bien et depuis longtemps parce que j'avais l'impression de lire presque ma biographie et notamment la relation et la place que pouvait prendre cet autre être qu'est Quercus et son environnement dans ma vie au quotidien. Et je dois dire que ce que j'ai notamment trouvé dans la description que Jean-Philippe Pierron pouvait faire de la relation avec l'autre, c'est le fait qu'au final, derrière chaque personne, et je me suis vraiment reconnu dans cette image-là, en fait, il n'y a pas une personne avec son histoire, sa culture, ou en tout cas sa culture humaine. Elle intègre aussi, finalement, la culture qu'on a pu construire et qu'on a pu se construire avec les autres êtres vivants qui nous entourent. Et en l'occurrence, c'est vrai que moi, j'ai la grande chance d'avoir accès à ce secteur de forêt dans lequel on trouve plein d'êtres, des êtres végétaux. Alors, il y a Quercus. Dans le livre, à un moment donné, je parle aussi d'autres individus chênes. Je parle aussi d'un individu être qui prend beaucoup de place, Phagus, d'un autre individu qui prend beaucoup de place dans ce secteur de forêt Pinus, et chaque individu au sein de ces espèces, les pins, les hêtres, les chênes, a quelque chose à dire et quelque part interfère dans la vie de leur environnement et des êtres qui sont autour d'eux, et notamment Quercus est influencé par l'ensemble des êtres qui sont autour de lui, et la relation que j'ai tissée avec Quercus, elle est obligatoirement dépendante de tous les autres êtres qui dépendent de lui ou qui interagissent avec lui.
Alors justement, Jean-Philippe Pierron nous parle du dialogue de l'homme et de la nature, de l'humain et de la nature. Vous nous expliquez que quand on parle d'enracinement, et on en parle beaucoup au sens figuré dans cette émission, l'enracinement, l'identité, vous expliquez très bien qu'il faut arrêter en quelque sorte de parler de cet enracinement de cette manière, parce que les arbres se répondent, cèdent, s'échangent.
En fait, les arbres, on a souvent l'image, d'ailleurs c'est un petit peu ce que disait Jean-Philippe Pierron là tout à l'heure, il donne l'image d'être silencieux. Alors ils sont silencieux parce qu'ils ne font pas de bruit tel que nous on le conçoit et par rapport à nos sens et en particulier à l'ouïe, voilà. On est sensible au bruit de la nature, hormis en période de vent, hormis s'il y a un moment... l'arbre subit un choc avec un autre arbre voisin. sinon il ne fait pas de bruit. Mais en réalité, si on était sensible à toutes les molécules qui transitent dans l'air émis par les arbres pour communiquer les uns avec les autres, si on était sensible à toutes les sources de communication que les arbres mettent en œuvre, notamment par le système racinaire, pour communiquer avec leurs voisins, là, pour le coup, on aurait l'impression d'être dans un brouhaha, dans une tempête acoustique permanente, malgré l'apparente ambiance silencieuse dans laquelle on peut baigner quand on va en forêt.
Jean-Philippe Pierron, dans votre livre, vous faites des références à des auteurs, beaucoup d'auteurs, beaucoup de lieux. Vous nous parlez de Gaston Bachelard, par exemple, mais vous nous parlez aussi de quelqu'un qu'on n'attendrait pas à voir dans un livre de philosophie, mais pourquoi pas. Vous nous emmenez au Gabon, à l'Embaréné, en pleine forêt équatoriale, avec Albert Schweitzer. Pour quelle raison ?
D'abord, Schweitzer avait un doctorat de philosophie, en plus d'un doctorat de médecine et de théologie. L'idée qui est en jeu ici, c'est que parmi tous les philosophes que j'ai choisis, tous ceux que j'ai retenus ici, ils ont tous fait une expérience de nature en la première personne, suffisamment décisive pour qu'elle modifie la compréhension qu'ils avaient d'eux-mêmes et de leur engagement. Alors, ça prend des formes très différentes, et donc pour Schweitzer, lui, il va au Gabon, sur le fleuve Ogoué, donc pas très très loin de la grande forêt équatoriale qui est à la frontière en fait, du Gabon et du Cameroun. Et donc l'expérience qu'il fait, lui, sur ce fleuve, c'est donc celle de voir le soleil se refléter sur le cuir épais en fait, de ces énormes animaux que sont les hippopotames. Et en voyant ces animaux, et peut-être, comme le disait Laurent il y a quelques instants, ce n'était pas simplement des animaux, ce ne sont pas que des catégories, il ne s'agit pas que d'un concept, ce n'est pas le concept d'hippopotame dont il fait l'expérience en fait d'un être qui vit sa vie dans la vie, dans l'immensité en fait des formes possibles du vivant. Et cette expérience-là, donc d'être, de connaître au sens d'une connaissance de lui comme sujet avec ces autres êtres que sont ici les hippopotames, eh bien ça lui donne une sorte d'intuition d'une sorte de communion des vivants avec les vivants qui n'est pas, parce qu'il est médecin, qui n'est pas ignorante du fait que la nature n'est pas toujours bienveillante, qu'elle n'est pas sans brutalité ni violence, mais conscience en fait de communion très fine et forte qui font qu'effectivement les êtres avec lesquels nous vivons ne sont pas des éléments décoratifs, mais sont dans une immense entrelacs de relations qui nous font être. Et donc Schweitzer, je l'ai mis là, parce qu'il y a une histoire assez extraordinaire, c'est quand même un prix Nobel de la paix. Il est organiste pour financer son dispensaire à l'Embaréné. Il fait des concerts un peu partout pour pouvoir récolter un peu d'argent.
Un grand virtuose et grand amateur spécialiste de Bach, notamment.
C'est ça, de Bach, et donc un élève de Charles-Louis Vidor, donc les grandes symphonies pour orgue de la fin du 19e, du 20e. Et donc c'est extraordinaire. Moi, j'ai eu la chance d'aller à l'Embaréné, un peu sur ses traces, entre guillemets. Et donc, ce qui est intéressant, dans sa figure à lui, mais celle aussi des autres philosophes, c'est que moi, ce qui m'interrogeait, c'est où va-t-on chercher son énergie, sa motivation en faveur ou en direction de ce qu'on appelle parfois un peu rapidement un engagement écologique. Aujourd'hui, on insiste beaucoup à la fois sur nos peurs des changements qui viennent, la peur du changement climatique, du réchauffement, des érosions de la biodiversité massive qui sont extrêmement inquiétantes. Donc, on valorise énormément la peur, on valorise la culpabilité en disant mais que sont nos manières de faire dans nos sociétés qui ont à ce point malmené nos rapports à la nature, pour faire court. Mais il y a d'autres mobiles, il y a d'autres motifs en nous et qui peuvent être des rencontres heureuses, comme celle que Laurent évoque à propos de Quercus, ou bien que Schweitzer fait, lui, à propos en fait, de ces hippopotames.
Thank you. idée. La parole à ceux qui pensent le monde.
Laurent Tillon, vous écrivez dans votre livre que tous les arbres écrivent en permanence leur mémoire. C'est-à-dire qu'en regardant un arbre, en l'étudiant, vous pouvez lui donner une identité.
On peut lui donner une identité parce que, en fait, un arbre a pour vocation d'aller chercher la lumière. Et il a besoin de lumière pour réaliser la photosynthèse qui lui permet de constituer toutes les parties de lui-même. Et donc construire le bois, construire les feuilles, construire pourquoi pas les molécules de défense quand il en a besoin, et les molécules de soutien dans certains cas. Et c'est vrai que la moindre ouverture, le moindre événement qui peut se passer dans la forêt va influencer la manière dont il va prendre place dans cette forêt. Et donc à partir du moment où vous arrivez sur un arbre, en lisant son architecture, en observant la forme de ses branches, la forme de son tronc, vous êtes en mesure de deviner, quelque part, l'histoire de cet arbre-là et la manière dont il a pu grandir, dont il a pu prendre place dans son environnement. Et c'est ça que je trouve assez intéressant. C'est que, effectivement, par la forme de leurs branches, par la forme vraiment de l'ensemble de l'arbre, on est capable de lire l'histoire de chaque individu.
Et vous nous expliquez que chaque branche, en quelque sorte, est un individu. Dans Alors l'individu, c'est indépendant.
C'est une découverte scientifique qui a un peu bouleversé la manière d'appréhender l'arbre lui-même. Comment caractériser un arbre ? En fait, c'est un être vivant, un végétal, qui a la particularité d'avoir une assise ancrée dans le sol, ce qui caractérise son enracinement.
Le fameux enracinement. Oui.
Avec un tronc, des branches maîtresses, des branches secondaires et le feuillage. En réalité, on s'est rendu compte que le tronc n'était que le support de toutes les branches qui pouvaient avoir une forme d'individualisation à tel point qu'on a identifié des petites modifications génétiques d'une branche à l'autre permettant d'identifier les branches les unes par rapport aux autres. En fait, chaque branche va s'adapter à son environnement et réagir. Ce qui fait que l'arbre lui-même est une sorte d'individu multiple qui va être amené dans certains cas à sélectionner, pourquoi pas, les parties de lui-même qu'il va pouvoir abandonner au profit d'autres parties. Alors, moi j'entends parfois des gens se promener en forêt, nous dire « mais cet arbre-là est peut-être malade, regardez, il a beaucoup de branches mortes ». En réalité, en fonction de l'endroit où on trouve les branches mortes, notamment quand ce sont les branches basses qui meurent, bien souvent ça traduit plutôt l'abandon de ces parties basses au profit des branches hautes qui, elles, se portent très très bien, qui indiquent d'ailleurs qu'il y a une très bonne circulation de sève jusqu'au sommet de l'arbre, et l'arbre met simplement à profit le développement du feuillage en hauteur, au niveau de la cime, au niveau de la couronne, qui va lui permettre d'acquérir un maximum de sources lumineuses pour se développer. Et ce qui fait qu'il abandonne les parties basses, c'est pas pour autant qu'il est en mauvaise santé, c'est simplement qu'il mise sur les parties de lui-même qui sont les plus performantes. Mais ça lui pose aucun problème d'abandonner une branche. C'est pas comme nous, quand on abandonne un organe, pour le coup, on le sent et ça nous pose plein de difficultés. Chez l'arbre, ça fonctionne de manière totalement différente. Il n'y a pas de système centralisé et pour le coup, voilà, il peut abandonner des parties de lui-même sans que ça le remette en question.
Votre arbre, votre Quercus, Laurent Tillon, est né donc avant la Révolution française. C'est aussi une dimension philosophique. Je poserai la question tout à l'heure à Jean-Philippe Piron. C'est la notion du temps. Quand on parle des arbres, hein, c'est 240 ans. Le chêne, et encore, je dirais pas que c'est un jeune homme, mais
il est au mi-temps de sa vie.
Au mi-temps de sa vie. Cet arbre qui est là a dû mener une bataille de tous les instants depuis qu'il est né.
C'est effectivement quelque chose qu'on a du mal à percevoir, nous, en tant qu'humains, parce que, comme disait Jean-Philippe Piron tout à l'heure, la forêt, finalement, quand on s'y promène, elle nous paraît silencieuse, elle nous paraît calme, elle nous paraît reposante pour nous. On a souvent bien du mal, même pour le végétal, à imaginer toutes les étapes qui ont jalonné leur vie
Quel
jusqu'à
combat.
Nos jours.
Quel combat !
Et avec un combat quasi permanent, à plein de niveaux. Alors le premier combat, il est lié à la possibilité pour la graine de trouver sa place et de s'enraciner. Et rien qu'à cette étape-là, on n'imagine souvent pas à quel point l'arbre a dû lutter pour faire sa place et qu'il y a une perte considérable parmi probablement tous les glands que le chêne parent dont est issu Quercus avait pu produire et émettre. Quercus est l'un des rares à s'en être sorti sur les milliers de glands qui ont été produits la même année. Et ça, c'est un élément qui est quand même assez important, qui a permis quelque part à Quercus de faire sa place. Parce que tout un tas de prédateurs, de parasites, ont consommé les autres glands. Et lui, il s'en est sorti parce que ses parasites et ses prédateurs se sont occupés d'abord des autres. Et lui, il a été épargné dans cette histoire, probablement aidé par un organisme qui l'a probablement déplacé à un endroit lui permettant d'être protégé, notamment de la dent du gibier, bien sûr, mais aussi de l'estomac dont l'appétit était insatiable des cochons. Faut imaginer quand même que beaucoup des arbres adultes qu'on côtoie aujourd'hui dans nos forêts, notamment dans les belles forêts domaniales qui sont issues des forêts royales, c'était des forêts dans lesquelles il y avait un pâturage très fort, il y avait une activité qui était très différente, et les forêts de l'époque étaient plutôt des landes boisées, c'est-à-dire des espaces de landes dans lesquels il y avait très peu d'arbres, et notamment à la période de la naissance de Quercus, on n'était probablement qu'aux alentours de 15% de la surface française qui était forestière. Aujourd'hui, on est à 31%.
Contrairement aux idées reçues.
Contrairement aux idées reçues. Donc, c'est vrai que la forêt d'aujourd'hui ne ressemble pas du tout à la forêt qu'il y avait au moment de la Révolution.
Donc, il a fallu qu'il se méfie des animaux. Il a fallu qu'il se méfie aussi de l'environnement, effectivement, pour qu'il lui cachait plus ou moins la lumière. Il a fallu qu'il se méfie de l'homme aussi.
Il a fallu qu'il se méfie de l'homme, et vous savez, la relation avec l'homme finalement et les arbres, elle est ambivalente, parce que il y a à la fois le côté négatif, à la fois le côté positif. Le côté négatif, c'est qu'à un moment, l'arbre, une fois qu'il est enraciné, il n'a pas la possibilité, comme les animaux, de se déplacer,
de fuir.
Une fois qu'il s'est enraciné, il doit composer avec les outils qu'il a à sa disposition. Et si à un moment l'homme décide de le couper, pour différentes raisons qui peuvent s'expliquer. D'ailleurs, on a un besoin de bois aujourd'hui qui est évident. Paradoxalement, on a d'ailleurs du mal à associer le feu de cheminée, qui est très agréable, le papier du livre, là aussi... du livre de Jean-Philippe Pierron. Pour autant, le papier qui est le support de ce livre est issu de bois à l'origine. Donc, on a besoin de bois, on aime bien le matériau bois et ce qu'on peut en faire, quelque part. Mais on a du mal à accepter le fait qu'on coupe des arbres. Alors ça, c'est un premier aspect. Mais ce qu'on ignore aussi souvent, c'est que l'homme a permis de favoriser le retour de la forêt à un moment donné. Et probablement d'ailleurs que pour Quercus, il a bénéficié du geste d'un sylviculteur qui, à un moment donné, l'a extrait de la ronce dans laquelle il avait trouvé refuge, mais qui le bloquait dans son développement pour atteindre la lumière. C'est-à-dire qu'à la fois la ronce empêchait les animaux, le gibier, les cochons, de le dévorer au stade de gland, puis ensuite de grignoter son feuillage. Mais il était bloqué parce que la ronce faisait une sorte de chapeau au-dessus de lui, l'empêchant d'émerger. Et il a fallu qu'un sylviculteur, avec un outil approprié, coupe la ronce pour ouvrir l'espace au-dessus de lui et lui permettre de grandir.
C'est troublant, Jean-Philippe Pierron, quand on écoute Laurent Tillon, le scientifique, le biologiste, le spécialiste des forêts, parler de cette manière de la nature. C'est ce que vous appelez, vous, en quelque sorte, une éco-poétique.
De fait, je me disais, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de nos savoirs pour qu'il soit nécessaire aujourd'hui de parler de nos rapports, par exemple, ici aux arbres, de la sorte ? Et d'une certaine façon, je pense que ce qui se joue autour de ce que j'appelle moi une éco-poétique, c'est un changement de modèle dans nos façons d'appréhender les vivants, et ici les végétaux et plus particulièrement les arbres. C'est-à-dire que la grande tradition de l'histoire naturelle héritée des anciens, d'Aristote jusqu'à Linné, hein, c'était on valorisait la contemplation de la nature dans les approches classificatoires, et puis ensuite on a valorisé l'importance du laboratoire, de l'expérimentation, avec la naissance de ce qu'on appelle la biologie. Et l'expérience de Laurent, elle valorise une autre porte d'entrée. C'est plus l'oratoire qui contemple, c'est plus le laboratoire où on expérimente la nature, c'est le territoire où on est attentif à des relations qui se tissent entre des êtres. Et donc, l'éco-poétique, elle fait ce travail-là, c'est revaloriser les relations qui se tissent entre des êtres vivants, reconnues pour elles-mêmes. Et effectivement, en valorisant ensuite aussi non seulement une démarche de type conceptuel, argumentative, mais aussi une démarche plutôt narrative. Ce qui me frappe, c'est que le discours scientifique, celui de l'agronome ou des approches de foresterie, ce discours scientifique, c'est un discours qui a le souci de l'exactitude en termes de quantification, en termes de pilotage, d'indicateurs permettant de dire des choses concernant l'état des forêts, par exemple. Mais il y a d'autres manières de dire la vérité de la forêt ou la vérité d'un arbre que le langage de l'exactitude scientifique. C'est celui de la rectitude poétique. Et il y a dans le travail de Laurent Tillon, par exemple, une volonté, je crois, par la narration, de dire avec justesse une expérience faite d'un vivant, ici, donc de cet arbre, parce que, effectivement, l'image poétique a une rectitude que ne parvient pas à convoquer l'exactitude scientifique dont on a aussi besoin. Il ne s'agit pas de les opposer, hein. Mais il y a une vérité du théorème, mais il y a aussi une vérité du poème. Et cette dimension du poétique, elle active justement les relations sensibles que nous entretenons avec le monde, et ici singulièrement avec, par exemple, cet arbre.
Et ça, c'est effectivement nouveau, Laurent Tillon. On a toujours eu la tendance à séparer les scientifiques et les poètes.
Toujours, et puis je dois admettre d'ailleurs que quand j'ai eu l'occasion dans ma carrière, et puis à un moment donné dans mon travail universitaire de scientifique, biologiste, on m'avait toujours bien cadré. C'est-à-dire qu'il fallait bien que chaque démonstration que je pouvais être amené à faire réponde à une rigueur scientifique, à une démarche scientifique. Et on m'avait bridé dans la manière que je pouvais exprimer. J'avais envie d'exprimer des choses sur une part de sensibilité, des émotions qu'on pouvait ressentir, des choses qu'on pouvait imaginer justement autour de ces relations entre les espèces que j'étudiais et puis la forêt. Et au final, je ressentais une sorte de manque particulier, de lacune. C'est-à-dire, j'avais l'impression que mon interprétation scientifique des choses était incomplète. Et c'est vrai que, d'ailleurs, je remercie beaucoup Jean-Philippe Pierron dans la manière qu'il a d'exprimer dans son livre la nécessité de laisser la part au poétique dans toutes les expérimentations qu'on peut être amené à faire et les démonstrations scientifiques. On est sur du vivant, on est sur quelque chose qui ne rentre pas forcément que dans des cadres. C'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure avec la forme de l'arbre. En réalité, il y a l'approche un peu théorique de ce qu'est un arbre. Et puis après, faut regarder arbre par arbre comment il se comporte. Et chaque individu est différent. Et on peut essayer d'avoir une image qui réponde à des schémas pour les arbres de manière globale. Voilà ce qu'on sait de l'écologie du chêne, par exemple. N'empêche que Quercus, c'est Quercus et il est différent des autres chaînes qui l'entourent. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'important qu'il faut avoir en tête.
Ce qui donne aussi à réfléchir, Jean-Philippe Pierron, le philosophe sans doute, mais à chacun d'entre nous, c'est ce que je disais tout à l'heure, le sens du temps quand on est face à un chêne et qu'on réalise que Quercus a 240 ans, cela nous interroge.
Oui.
Dans cette éco-biographie, oui. Justement, dans cette façon d'aborder notre vie et notre vie dans la nature.
Oui. Si vous permettez, je vais revenir sur cette question du temps très vite. Mais il y a une chose qui a été dite, en fait, il y a un mot qui a été utilisé, en fait, par Laurent à l'instant, en fait, qui me paraît majeur. C'est la question de comment on est bridé dans notre sensibilité. Lorsqu'on est, par exemple, en train de se former dans une recherche doctorale ou universitaire. Et je pense que cette question de la bride, elle me semble décisive parce que c'est vrai, bien évidemment, sur le type de savoir et donc le type d'intelligence que nous construisons lorsque nous considérons que le rapport au sensible, c'est de la sensiblerie, que le poétique en nous, c'est du décoratif, du pittoresque, mais une histoire de fleurs bleues, mais pas une histoire de vraie rationalité. Mais c'est pas vrai uniquement pour la science, c'est vrai aussi, j'allais dire, pour l'ensemble de nos sociétés, dans lesquelles où nous avons et nous apprenons à nos enfants très tôt, et nous devenons comme ça nous aussi adultes, à penser que être un sujet humain adulte et autonome, c'est d'abord un être rationnel, maître de lui-même, pour qui la sensibilité serait d'une certaine façon une manière de ne pas être venu à maturité. Autrement dit, il y a des enjeux très décisifs autour de cette question de la bride qui était évoquée précédemment. Alors, ce que vous dites sur le temps, c'est effectivement majeur. Alors, il y a je pensais à ça en disant qu'effectivement, peut-être que la méditation, rencontre que l'on peut faire de l'arbre, nous dit quelque chose du rapport au vivant de façon très différente de ce qu'on pourrait faire comme expérience s'il s'agissait d'autres êtres plus fragiles, comme le sont des fleurs ou autres. Ce qui me frappe effectivement avec un arbre, c'est ce que vous indiquez sur cette idée de temporalité. Il y a une fable de La Fontaine que j'aime bien rappeler qui dit ça très bien. C'est la fable du vieillard et les trois jeunes hommes. Alors je ne vais pas la raconter, on n'a pas le temps ici, hein, mais donc je renvoie à la fable.
Il faut la lire. Mais
l'histoire est assez simple. Trois jeunes hommes très, très fringants qui disent qu'être un homme, quand on a 20 ans, c'est partir en voyage, c'est aller faire la guerre, c'est aller faire des affaires, qui voient un vieillard partir en forêt avec un sylviculteur, en fait, avec donc quelques arbres sur l'épaule. Et il lui pose cette question, à quoi bon vous soucier d'un avenir qui n'est pas fait pour vous ? C'est-à-dire, en fait, vous allez planter un arbre et en fait, vous n'en serez jamais le bénéficiaire direct. Tous ceux qui ont planté un arbre savent ça, que l'arbre nous installe notre geste et le geste humain dans une temporalité beaucoup plus vaste qu'elle, c'est-à-dire pas celui du temps personnel, mais celui d'un temps social, telle sorte que l'arbre sert un peu de connecteur temporel entre le temps personnel du sujet, le temps social est peut-être beaucoup plus encore lorsqu'on a des arbres en fait qui vivent sur des centaines voire des milliers d'années, comme je pense au séquoia. Et cette question de la temporalité, elle peut aussi expliquer pourquoi l'arbre sert de métaphorisation pour penser à la fois notre verticalité d'humain, à la fois dans son inscription dans les sols et dans son appel à l'air, si je puis dire. Autrement dit, l'arbre, il dit à la fois quelque chose de nos inscriptions spatiales et en même temps de nos appels à la grâce, si je puis oser ce terme, mais aussi une méditation sur la traversée du temps. Ce qui me frappait dans la description qui a été proposée par Laurent sur cette idée que chaque arbre, dans son individualité, dans sa morphologie, construit une forme de biographie d'une certaine façon, eh bien, comment nous, pour dire notre traversée du temps, eh bien, nous empruntons à l'image de l'arbre sa figure. Je pense ici au jeu d'écho qu'il y a entre les logiques du lignage et celles du ligneux, si je puis dire. Pourquoi les humains, pour raconter leur traversée longue dans le temps long, donc de génération en génération, construisent des arbres généalogiques. Bien, de cette façon, la métaphore du généalogique, elle est plus qu'une métaphore, elle est une manière de dire quelque chose comme une destination commune ou partagée entre le temps long du végétal qui, au fur et à mesure de son arborescence, eh bien, déploie une façon d'épopée modeste ou grandiose dans le temps, et nous, dans nos générations et nos successions générationnelles, lorsque nous faisons ça, lorsque nous pensons à nos histoires de famille.
En tout cas, comme le héros de Giono, Elzéar Boussier, il faut planter des arbres manifestement. Et vous écrivez, Jean-Philippe Piron, que celui qui plante un arbre ne crée rien, mais aide au passage, justement.
Oui, c'est-à-dire que c'est une méditation compliquée, hein, cette histoire-là. Hein, mais c'est le rapport compliqué entre le vivant d'un côté et le concept de vie de l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive très rapidement sur des considérations, alors je ne voudrais pas faire peur aux auditeurs, mais qui sont des considérations métaphysiques. C'est-à-dire qu'effectivement, si on sait un peu manipuler ou un peu beaucoup manipuler le vivant, malgré tout, on ne crée pas la vie. Et ce qui est en discussion, c'est comment effectivement le geste du du sylviculteur, le geste de planter un arbre, c'est à un moment donné, enfin, ça a été très bien dit tout à l'heure, une façon effectivement d'accompagner un passage. Et donc c'est ça que moi c'est ce que je trouve très, moi il se trouve j'ai une petite parcelle moi de forêt dans les Vosges où j'ai planté moi des mélèzes en particulier et des pins noirs. Et ce que je trouvais très bon, je suis un petit urbain moi, donc mais ce que je trouvais très très beau lorsque j'ouvrais le sol avec un soc pour y mettre les fragiles racines, eh bien c'était de me dire effectivement que je ne sais pas ce que donneront ces arbres dans les années qui viendront, mais j'avais l'impression effectivement d'être moi de passage et un passeur pour eux. Et cette fragilité, enfin oser dire ça. Je reviens sur la question du bridé tout à l'heure, oser se dire ça à soi, mais peut-être le dire publiquement et en faire un livre, comme le fait Laurent à propos de son travail, c'est rompre cette culture de la pudeur que fabriquent nos sociétés, qui considèrent que ce type d'attache ou ce type d'attention ne mériterait pas d'être reconnu parce que l'économisme ambiant, le souci d'efficacité, de la production, de la rapidité, ben, déconsidère ce type d'attention comme étant de pauvres gestes, alors qu'il y a une force de ces liens faibles, je crois, parce qu'ils nous aident à nous tenir vivants sur la Terre, tout simplement.
Alors, je vais donner la parole à Laurent Tillon, le rêveur solitaire, le promeneur solitaire qui doit lire Rousseau dans la forêt, qui a bu vos paroles. Qu'en pensez-vous,
Moi, j'ai adoré, en fait, toute cette description qu'a fait Jean-Philippe de à la fois du rapprochement entre notre nécessité de s'appuyer sur les arbres pour construire notre généalogie, et puis aussi sur la manière dont un arbre finalement ponctue un petit peu la vie, et en particulier la vie des hommes. Ce que j'écris à un moment dans mon livre, c'est que assez souvent, quand je suis au pied de Quercus, j'imagine tout ce qu'il a pu voir. J'imagine aussi tous les gens qui ont pu, à un moment donné, s'arrêter peut-être à ses pieds, l'observer, le regarder, peut-être comme moi, quelque part, avoir un échange avec lui, peut-être comme moi, garder pour eux pendant longtemps cette part d'intimité et de relation très particulière qu'ils avaient pu tisser avec cet arbre ou avec un autre arbre. Et quelque part, je me dis en plus, aujourd'hui, cet arbre Quercus, 240 ans, est au mi-temps de sa vie, mais que va-t-il vivre encore? Que va-t-il transmettre comme message aux générations futures? Et quelque part, je me dis que on a moyen aujourd'hui de laisser un peu notre marque, notre patte dans l'histoire, de manière à léguer aux générations futures des possibilités de faire un petit peu ce qu'ils voudront, à la fois de la forêt, à la fois des relations qu'ils pourront tisser avec la nature qui les entoure.
C'est ce que disait Jean-Philippe Piron fort justement, c'est-à-dire que vous avez un métier noble dans la mesure où vous travaillez pour les générations futures. Vous ne verrez pas les arbres que vous plantez, dont vous occupez les jeunes arbres, veux-je dire, mais vous pensez toujours, et c'est la noblesse de votre métier, aux siècles qui vont venir.
À la fois aux siècles qui vont venir, à la fois, en fait, notre travail est issu de l'héritage du coup de toute cette histoire forestière, de l'histoire locale, c'est-à-dire que chaque population s'approprie son territoire et quelque part s'approprie aussi sa forêt. Et nous aujourd'hui, on n'est que d'un court passage au regard de ce qui va se passer sur cette forêt. Et c'est vrai que l'un des grands enjeux finalement du sylviculteur aujourd'hui, du forestier d'aujourd'hui, c'est de réussir le défi de concilier tous les enjeux auxquels notre société est confrontée, l'enjeu climatique, oui, l'enjeu de la préservation de la biodiversité.
Et les conséquences encore de la tempête des années 2000, enfin du début
des conséquences 2000, de la tempête 90. Des années 2000 et des tempêtes successives qui arrivent de plus en plus, le changement climatique qui entraîne de forts dépérissements dans beaucoup de forêts, et d'arriver à léguer une forêt qui soit la plus résiliente possible pour demain. Et j'aimerais ajouter un mot d'ailleurs sur cet aspect-là. C'est vrai que, je pense que les auditeurs auront pu le sentir, la connexion que j'ai établie avec cet arbre contribue à me rendre plus résilient. J'ai l'impression d'être beaucoup plus rempli, d'être un petit peu plus que moi-même.
Je crois que les auditeurs l'ont compris.
Je crois que les auditeurs l'auront compris. Et c'est peut-être un des enjeux aussi, c'est d'offrir des forêts qui leur permettront en tout cas aux générations futures, d'être plus résilientes.
Un dernier mot, Jean-Philippe Pierron, très rapidement. Quand vous parlez de d'éco-biographie, il ne s'agit pas de l'individu replié sur lui-même et qui voit la nature comme décor. Hein. C'est un individu ouvert.
Oui, c'est-à-dire que on pense souvent, un des grands acquis de la pensée des Lumières, c'est la conquête du sujet autonome, reconnu en fait dans ses capacités et libéré de tout ce qui pourrait l'aliéner. Et donc c'est une conquête qu'il faut reconnaître, mais on peut avoir une conception autarcique de cette autonomie, alors qu'en fait il s'agit de penser notre autonomie en relation, ce qu'on pourrait appeler une autonomie relationnelle. Et donc penser l'humain dans ses relations avec les non-humains et avec ici les arbres, ça n'est pas aliéner l'humain, ça n'est pas le choisir l'écologie contre l'homme. Autrement dit, l'écologie n'est pas un anti-humanisme, mais il s'agit de mieux penser l'humain. Et donc, en ce sens-là, effectivement, le penser comme un être de relation et de toutes ces petites relations, ou parfois massives, parce que quand un chêne, ça se pose là quand même, par et avec lesquelles, en fait, nous sommes. Et donc, je crois, effectivement, c'est cette idée que de ce point de vue, il y a une sorte de conversion de notre rapport à la nature qui n'est pas pour nous qu'un décor, mais un partenaire, dans la pluralité de ces configurations, qu'elles soient ici un chêne ou qu'elles soient la pluralité des formes du vivant que nous connaissons, animaux ou végétaux ou milieux.
Merci Jean-Philippe Pierron. Je recommande votre livre qui nous interroge sur cette notion d'humain et de nature, tout étant confondu. Ce livre est intitulé « Je est un nous, enquête philosophique sur nos interdépendances avec le vivant ». Il est publié chez Actes Sud, dans la collection « Monde sauvage » au pluriel, pour une nouvelle alliance. Et il va de soi, j'en ai dit déjà beaucoup de bien, qu'il faut lire le livre de Laurent Tillon, « Être un chêne sous l'écorce de Quercus ». C'est un bien beau métier que vous faites.
Je le confirme.
Publié également chez Actes Sud, dans la même collection, Monde sauvage au pluriel, pour une nouvelle alliance. Idée réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Rendez-vous dimanche prochain à 15h10, temps universel, 17h10 à Paris, avec un nouveau numéro d'idée, où il sera cette fois question des philosophes du siècle des Lumières au XVIIIe siècle, donc avec notre invitée Corinne Pelluchon. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.
RFI.